Je suis celle qui se réveille avant les autres et qui attend les yeux grands ouverts. Je suis celle qui tète le sein de sa mère en la dévorant du regard. Je suis celle qui tombe et qui ne pleure pas et qui se relève, qui tombe encore et se relève jusqu'à ce que ses jambes la portent. Je suis celle qui refuse de donner la main pour marcher. Je suis celle qui court derrière les animaux en riant. Je suis celle qui cueille les fleurs. Je suis celle qui, pendant que la mère allait un nouveau bébé, porte sur son dos l'enfant né entre-temps. Ce soir, nous avons la chance d'être avec Martin Vinclair, dont je viens de lire le début d'un de ses livres intitulé « L'école des soignantes ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ce sera Dalida.
Comme prima, tu me donnes tant de joie. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora, magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Que j'espère te le rendre quand heureuse dans tes bras, comme prima, tu me donnes, comme prima, tant de joie.
Martin Vinclair, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre vrai nom.
Non, ce n'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme que j'ai pris quand je me suis mis à publier. Mon vrai nom, c'est Marc Zafran, et Martin Vinclair, c'est un pseudo que j'ai choisi en hommage à Georges Pirec, dont un personnage récurrent s'appelle Gaspard Vinclair. C'est l'écrivain français qui m'a persuadé, qui m'a convaincu que je pouvais écrire des livres intéressants en français. Et donc voilà, par reconnaissance, j'ai pris ce pseudo-là.
Alors dans un de vos livres, je crois que c'est le premier, d'ailleurs il y a pas mal de temps maintenant, qui s'intitulait « La vacation », vous parlez, vous évoquez votre père. Votre père était médecin et quand vous étiez petit, il vous emmenait dans ses tournées. Quel souvenir vous en reste-t-il aujourd'hui, Martin Vinclair ?
Oui, c'est pas dans La vacation que j'en parle, parce que La vacation c'est un roman, mais c'est un de mes premiers livres qui s'appelle Légende, qui raconte mon enfance. Ben, et ce que je me rappelle, c'est que d'abord j'avais un moment privilégié avec mon père, qui était quand même médecin de campagne et qui était beaucoup parti en tournée. Je le voyais surtout le soir, quand il rentrait souper. Et moi, à cette époque-là, j'étais petit, donc j'allais me coucher presque toujours, tout de suite. Et puis quand j'ai commencé à être préadolescent, vers 13-14 ans, quand je rentrais de l'école, qu'il n'était pas encore parti en visite, il me disait « T'as fait tes devoirs ?» Bon, moi, j'étais un bon élève, donc mes devoirs étaient toujours faits. Il me disait « Bah, viens avec moi. » Puis, il m'emmenait faire ses visites et il me racontait la vie. Bon, alors, il me racontait ses souvenirs d'enfance, il me racontait les choses qu'il avait faites quand il était étudiant, etc. Il ne me parlait jamais des patients qu'il allait voir, bien sûr. Je ne rentrais pas chez les patients, je restais dans la voiture. J'écoutais la radio, d'ailleurs. Je pense que c'est aussi... La période de mon enfance, c'est la période de la radio. J'ai toujours adoré la radio. Et il y avait ça aussi. Et puis, voilà, il me racontait des histoires. Donc, c'était un moment d'histoire dans une bulle qui était sa 4L. Sur les routes de Beauce, qui étaient souvent assez longues. Et lui, il roulait à 60 à l'heure. Il faisait jamais de vitesse parce qu'il écoutait aussi la radio quand il était tout seul. Donc, il roulait très lentement. Donc c'est des bons souvenirs.
N'est-ce pas lui qui vous a appris à soigner ?
C'est-à-dire c'est mon premier modèle et j'ai tout de suite su ce que c'était soigner avant de le verbaliser, avant de le théoriser comme on dit. C'est-à-dire que je voyais que c'était quelqu'un qui chez moi il y avait un couloir avec un rideau et les gens rentraient par la porte, le cabinet médical était au rez-de-chaussée à l'avant de la maison, les gens rentraient par la porte d'entrée, évidemment ils restaient assis, il y en avait souvent un ou deux qui restaient assis dans le couloir, d'autres qui étaient dans la salle d'attente, et je les voyais ou je les entendais entrer dans le bureau et quand ils sortaient je les entendais dire « Ah, vous savez docteur, ça m'a fait tellement de bien de vous voir et de vous parler ». Et donc pour moi c'était évident que soigner, c'était faire en sorte que les gens aillent mieux en sortant qu'en rentrant. C'est comme ça que je le définis maintenant. Je définis le soin de cette manière-là. Quand on me dit qu'est-ce que c'est que soigner, je dis faire en sorte que les gens aillent mieux après vous avoir vu. Aller mieux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aller mieux psychologiquement, ça peut être se sentir rassuré, ça peut être se sentir informé, ça peut être soulagé parce qu'on vous a donné quelque chose pour plus avoir mal, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est la personne qui est soignée qui dit si elle a été soignée. C'est pas le soignant ou la soignante.
À l'intérieur de votre pratique médicale, vous avez beaucoup évolué, Martin Winkler, même si vous êtes le porte-parole de tout un mouvement qui devient de plus en plus important à travers le monde. Je rappelle que pour le moment, vous vivez au Canada. Vous nous parlez du Canada en ce moment. Après avoir exercé la médecine en France et après avoir eu une carrière littéraire très importante avec de grands succès, dont notamment la maladie de Saxe, mais il y a aussi cette école des soignantes. Et on sent bien, à travers en tout cas vos écrits, qui reflètent souvent l'évolution de votre métier et de la pratique médicale, que vous avez vécu dans votre chair et dans votre esprit une profonde métamorphose de ce que ça veut dire être un soignant. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous le fait d'être un soignant ou une soignante ? On reviendra à la question des femmes, qui est centrale dans votre parcours et dans vos thématiques.
La grande évolution que j'ai vécue, comme tout le monde, c'est que je suis parti d'une posture de médecin, de ce qu'on appelle un médecin paternaliste, c'est-à-dire c'est le médecin qui est censé savoir et qui donc, étant censé savoir, prend les décisions parce que c'est lui qui sait. Et c'est souvent un homme d'ailleurs, parce qu'à l'époque où moi j'ai fait mes études de médecine, il y avait une majorité de médecins qui étaient des hommes. Ça a beaucoup changé depuis et j'en suis très heureux. Et maintenant, on est dans une manière d'envisager le soin qui est extrêmement différente dans le sens où, au fond, la personne qui doit décider de ce qui est bon pour elle, c'est la personne soignée. C'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière, c'est pas la sage-femme. Et les professionnels de santé devraient, et c'est un changement de paradigme très très fort, très important, et qui met beaucoup de temps, que certaines personnes font très rapidement ou ont déjà fait avant même de commencer à se former, mais que d'autres ont beaucoup de mal à faire, qui est de considérer que les décisions, c'est les personnes soignées qui doivent les prendre. C'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma maladie ou ma santé. C'est pas aux autres de décider pour moi. Et ça, évidemment, c'est quelque chose. Alors, vous disiez, on va parler des femmes. Moi, je pense que c'est au contact précisément des femmes et de la santé des femmes que j'ai appris ça beaucoup plus rapidement que certains de mes confrères. Parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle il n'y avait pas de différence de statut, il n'y avait pas de différence d'importance entre les femmes et les hommes. Il y avait des rôles sociaux, certes, les femmes et les hommes n'avaient pas, enfin, se comportaient pas de la même manière et ne considéraient pas leur rôle social de la même manière. Mais il y avait quelque chose que moi, j'ai perçu en tout cas comme une égalité. C'est-à-dire la parole d'une femme avait autant de valeur que la parole d'un homme. D'ailleurs, souvent, les femmes parlaient plus et beaucoup plus fort que les hommes, donc les hommes écoutaient. Et ils écoutaient vraiment, parce que enfin, je voyais qu'ils écoutaient vraiment. Donc, à partir du moment où on a cette notion d'égalité, on ne peut pas ne pas être sensible aux inégalités qu'on voit dans la société et que moi, j'ai pu constater en travaillant dans un centre d'IVG, centre de planification, centre de santé des femmes, où manifestement, la vie des femmes, c'est pas la vie des hommes et les inégalités sont criantes. Et en tant que professionnel de santé, l'un des principes de base du rôle du soignant ou de la soignante, c'est d'aider les gens qui font appel à nous à s'affranchir le plus possible de ceux qui les oppriment sur le plan de la santé, mais aussi de ce qui les opprime au sens général du terme. C'est-à-dire que pour moi, soigner, c'est libérer, ou aider à se libérer, ou contribuer à la libération des individus. Et c'est pour ça que ça doit être... le soin, ça doit être confié avant tout aux décisions de la personne concernée, parce que si je décide à sa place, elle n'est pas libre. Alors que si je lui propose des choses différentes, et ben c'est elle, et que je les lui propose de façon loyale, en lui donnant vraiment toutes les informations, c'est elle qui décide, et donc c'est sa liberté qui s'exerce.
Oui, d'accord, Martin Winkler, c'est ce que vous démontrez, y compris... à la fois par des fictions et par des documents. Il y a deux livres de vous qui vont sortir à la rentrée prochaine qui démontrent à quel point le corps des femmes est ignoré et est approprié par le savoir médical. On y reviendra tout à l'heure. Mais nous, par exemple, moi, comme tous les auditeurs et toutes les auditrices, si je vais voir un médecin comme vous, c'est parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai. J'ai un trouble, j'ai mal, etc. Et évidemment, moi, je pense que c'est vous qui détenez le savoir, alors que moi, je ne sais rien sur mon corps.
Sauf que l'un des rôles des professionnels de santé, c'est d'informer, d'instruire, de transmettre le savoir. Je vous donne un exemple qui vient de ma pratique, et c'est là-dessus que j'ai modélisé cette façon de penser. Quand une femme vient me demander une contraception, bien sûr qu'elle ne connaît pas tous les éléments de la contraception que je pourrais lui donner, et qu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Mais il y a des choses que moi je ne connais pas et qui sont centrales à l'utilisation de la contraception, c'est sa vie, c'est son corps, comment est-ce que son corps fonctionne. Un exemple tout bête, c'est est-ce qu'elle a des règles cataclysmiques tous les mois? Si elle a des règles cataclysmiques tous les mois, elle sait que ce qui va lui apporter la meilleure contraception, c'est ce qui va lui permettre par exemple de ne pas avoir de règles. Mais moi je ne peux pas le savoir. Il y a donc une mise en commun d'un savoir qui est un savoir technique, un savoir théorique, qui est ce que je sais de la contraception, et puis d'un savoir pratique, concret, essentiel, qui est sa vie, son corps, avec qui elle vit, est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas être enceinte, est-ce qu'elle veut être enceinte jamais, ou est-ce qu'elle attend d'être enceinte 6 mois, 1 an, 2 ans, qui vont mettre ça en pratique. Mais in fine, on met en commun ces deux savoirs, et on ne peut les mettre en commun que si, par exemple, que si d'abord je respecte le savoir de la femme. Ce qu'elle dit, je le crois. Ce qu'elle ressent, je le respecte. Ce qu'elle veut, je me mets à son service. In fine, c'est elle qui va prendre la décision. Est-ce qu'elle va choisir un stérilet? Est-ce qu'elle va choisir une pilule? Est-ce qu'elle va choisir un implant? Est-ce qu'elle va choisir autre chose? Et mon rôle, c'est de l'aider à faire en sorte que la méthode qu'elle va choisir soit la plus confortable pour elle, moralement et physiquement. Donc, le savoir du médecin ou le savoir de l'infirmière ou de la sage-femme sont réels, mais ces savoirs ou ces savoir-faire ne sont pas utilisables par une autre personne que par la personne concernée. Donc, mon rôle, c'est de lui mettre toutes les méthodes sur la table et puis de discuter avec elle en lui disant, ben voilà, qu'est-ce qui vous paraît le plus approprié pour vous? Parce qu'il y a un gros problème dans le paternisme médical, c'est que je les reconnais en moi-même, c'est que on a des préférences. On pense parce qu'on a été exposé à tel ou tel type d'expérience chez les personnes qu'on a croisées, on pense par exemple que telle méthode de contraception vaut mieux que les autres. Mais c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que c'est peut-être vrai statistiquement, Mettons que pour 80 personnes, cette méthode-là sera plus efficace que les autres. Mais individuellement, on ne peut pas mettre les gens dans des statistiques. Donc on est obligé de leur dire, voilà ce qu'on sait, et vous allez faire vos choix en fonction du savoir, mais en fonction aussi de vos perceptions, de vos craintes, de vos croyances et du confort que vous en attendez. Et peut-être que vous n'allez pas faire le choix qui serait théoriquement le meilleur, mais on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le meilleur choix pour vous, et il n'y a que vous qui le savez. C'est pour ça que je dis que la décision, in fine, repose toujours sur la personne soignée, mais aussi que ça demande de la part des professionnels de santé une loyauté extrêmement grande en leur disant voilà ce que nous savons, voilà ce que nous ne savons pas, et quel que soit votre choix, nous allons vous soutenir. C'est ça le grand problème, le grand saut de paradigme que les soignants doivent faire, c'est qu'ils doivent faire confiance et soutenir les choix des personnes à qui ils font des propositions. C'est ça, ne pas décider pour eux.
Encore faut-il, Martin Winkler, que le médecin donne la parole à son
Ah
patient ou à sa patiente. D'ailleurs,
Ah
quel étrange mot que ce mot de patient et de patiente. Ce n'est pas toujours le cas, bien loin de là. Et encore faut-il que le médecin prenne le temps d'écouter la parole de la patiente et du patient. Est-ce qu'au bout du compte, ce que vous souhaitez, c'est une véritable révolution dans l'ordre médical, c'est-à-dire que celui qui est censé savoir, le médecin, va délivrer son savoir et le transmettre à la patiente ou au patient pour que cette personne s'approprie le savoir que le médecin lui donne et pour que, d'une certaine façon, il ne revienne plus le voir parce qu'il n'aurait plus besoin d'aller le voir.
Absolument. L'idéal du soignant, c'est de faire, ou de la soignante, c'est de faire en sorte que la personne qui a fait appel à elle n'ait plus besoin d'elle. Besoin d'elle parce que la maladie est guérie, parce que le conseil qu'on lui a donné lui a suffi. Effectivement, moi je considère que j'ai fait mon travail quand les gens n'ont pas besoin de moi. Vous comprenez bien que ça aussi c'est un changement de paradigme, parce que pendant des centaines et des centaines d'années, le rôle du médecin c'était d'être celui dont tout le monde a besoin. Oui, bien sûr, il faut qu'on soit là, mais un soin réussi, c'est le soin de quelqu'un qui n'a plus besoin de vous. Alors, il y a une révolution à faire, effectivement, il y a une révolution à faire dans tout ce que vous avez dit au début de votre question, c'est-à-dire que la première chose qu'on devrait enseigner aux professionnels de santé, c'est écouter. Regardez les gens, regardez-les, écoutez-les, entendez-les, croyez-les, parce qu'il y a très mauvaise habitude culturelle en France, qui est que quand, moi j'ai entendu ça pendant toutes mes études de médecine, c'est oh là là, faut pas croire tout ce que les gens te disent. Ben si, il faut les croire. Bien sûr que si, il faut les croire. Parce que de quel droit d'abord ne les croirait-on pas? Comment saurions-nous ce qu'il y a dans leur tête? Comment saurions-nous la vérité sur eux alors qu'on ne vit pas leur vie? Donc on est obligé de les croire. Et c'est sur le plan de l'éthique, c'est inacceptable de ne pas croire les gens. C'est en plus contre-productif parce que ne pas croire les gens, c'est ne pas entendre des informations importantes qu'ils vont nous donner. Les écouter, les regarder dans les yeux, les respecter, les croire. Effectivement, après, on peut construire à partir de ce qu'ils disent. C'est pas facile parce que dans une culture où justement le médecin est perçu comme quelqu'un de menaçant, comme quelqu'un qui est susceptible de vous juger ou de vous punir, de porter des jugements en particulier sur vous. Ça demande beaucoup de travail de la part des professionnels qui ne sont pas comme ça, de rassurer et de montrer qu'ils sont ou qu'elles sont disponibles aux personnes soignées. Et donc ça demande du temps. Mais dans mon expérience, les premières consultations sont les plus longues parce que ben, y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses à entendre et à comprendre et à négocier. Mais quand on a obtenu, quand on a montré qu'on était digne de confiance, et je pense que c'est au médecin de montrer qu'il est digne de confiance, c'est pas l'inverse. C'est pas aux patients de montrer qu'ils sont dignes de confiance, c'est au médecin ou à l'infirmière ou à la sage-femme de montrer qu'elle est digne de confiance. Et quand elle l'a fait, eh bien, à partir de ce moment-là, les choses vont beaucoup plus vite. J'ai vu des tas de gens venir me voir avec des demandes qui étaient demandes que je comprenais pas. Et donc, j'essayais de comprendre. Je leur faisais préciser. Et je voyais que finalement, la demande initiale était un prétexte qui leur permettait d'avoir accès à moi. Et ensuite, il y avait quelque chose de beaucoup plus compliqué derrière. Et quand je leur avais montré que d'abord j'étais prêt à écouter ce qu'ils avaient à dire sans les juger, cette première rencontre initiale rend toutes les autres rencontres beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Quand on dit les médecins n'ont pas de temps, non, ils investissent pas leur temps, à mon avis, on leur apprend pas à investir leur temps de manière à justement gagner du temps par la suite. C'est-à-dire que plus vous êtes en confiance, plus ça va vite. Moins vous êtes en confiance, plus ça prend du temps.
Pourquoi avez-vous quitté la France, Martin Vinclair? Pourquoi vivez-vous au Canada? Parce que justement, vous n'arriviez pas à faire assez bouger les lignes dans votre propre pays de vos propositions sur les soignantes et les soignants?
J'avais pas la prétention de pouvoir faire bouger les lignes. Je pensais que... Moi, j'ai une grande chance, c'est que j'ai publié des livres qui ont beaucoup de succès. Le cœur des femmes est un best-seller au moins autant que la maladie de Saxe, mais sur plus longtemps. Et ça a touché à la fois beaucoup de femmes et beaucoup de professionnels de santé. Donc je me sens tout à fait gratifié par le fait que quand j'écris un livre, ce livre est lu et qu'il touche un grand nombre de personnes, ou en tout cas profondément, même si c'est qu'un petit nombre, profondément. C'était pas ça, c'est que j'étais arrivé à un stade de mon évolution à la fois de professionnel et de professionnel de santé et de professionnel de l'écriture, où j'avais envie de partager plus directement mon expérience, mon savoir-faire avec les autres professionnels de santé et les autres professionnels de l'écriture. Il n'y avait aucune possibilité de le faire en France. C'était pas possible. J'ai essayé de m'insérer dans une faculté de médecine en France, et dès que j'ai commencé à critiquer la manière dont la médecine y était enseignée, on m'a demandé de partir. Je faisais pas partie de l'institution, j'ai jamais fait partie d'une institution formelle. Alors qu'au Canada, en particulier au Québec, on me faisait venir, on me disait venez parler à nos étudiants de bioéthique, venez parler à nos étudiantes sages-femmes, venez parler à nos étudiantes ergothérapeutes, venez parler aux étudiants en médecine. Et donc j'avais la possibilité non seulement de m'éduquer encore un peu mieux, hein, j'ai fait une maîtrise de bioéthique à Montréal, ce que j'aurais pas pu faire à l'époque en France, mais aussi d'enseigner, de partager mon expérience. Quand je disais mais j'ai pas d'expérience d'enseignant, on me disait mais on s'en fout, vous avez une expérience professionnelle, c'est ça qu'on vous demande de transférer. Puis j'ai saisi une occasion de venir, et puis parce que nous vivons dans un monde dans lequel, vous êtes à un bout du monde, moi je suis à un autre bout du monde, on peut parler tous les deux, mais écrire, ça pouvait se faire aussi comme ça. Je pouvais continuer à publier mes livres en France, à les envoyer via l'internet et puis à venir deux fois par an. Comme je me sens beaucoup mieux à Montréal, et ben j'ai continué à vivre à Montréal et justement à développer des manières de m'exprimer et aussi de rencontrer des gens et aussi d'enseigner que je pouvais pas faire en France. Ça veut pas dire que si on m'invitait à faire un séminaire, à donner un séminaire à des étudiants en médecine français, que je viendrais pas, j'en serais très heureux, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'invitations dans le monde de la santé en France. Il y a beaucoup plus de gens qui m'invitent à parler de mes livres, qui m'invitent à parler d'écriture, par exemple, et les invitations à s'exprimer auprès des soignants viennent beaucoup plus des sages-femmes, des orthophonistes, des infirmières, que des médecins, ou des étudiants en médecine d'ailleurs, parce qu'il y a des étudiants en médecine qui m'invitent souvent, que des médecins eux-mêmes ou des facultés encore constituées.
Eh ben, bon entendeur, salut. J'espère que cette émission permettra d'avoir de nouvelles propositions et que vous serez invité dans de nombreuses facultés de médecine, parce que si j'en juge par un des livres que vous allez publier à la rentrée, Martin Vinclair, des ateliers d'écriture que vous faites avec des étudiants, on a beaucoup à y apprendre, nous toutes, nous tous. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Clou Rouge.
Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Sans impact, pour moi ça ne sert à rien. Et je vois rouge, rouge, rouge.
Alors chaque soir, nous demandons à notre invité de choisir un texte. Toute cette semaine, nous sommes accompagnés par la comédienne Clotilde M. Vous, Martin Winkler, vous avez choisi Leslie Kaplan. Dois-je rappeler que Leslie Kaplan est une immense écrivaine qui publie depuis maintenant une bonne quarantaine d'années une œuvre extraordinaire tant elle est à la fois politique, poétique, engagée. Et vous, vous avez choisi de lire un extrait d'un de ses livres qui s'intitule « Désordre ». Pourquoi ?
Oh ben, je pense que c'est tellement d'actualité. Je veux dire, pour moi, c'est l'expression de ce que je souhaite et j'appelle de mes voeux. C'est qu'on renverse les ordres établis et qu'on se révolte. Alors peut-être pas de la manière violente que décrit Leslie Kaplan, mais qui est métaphorique. Mais qu'on fasse en France la révolution, tranquille qui a eu lieu au Québec dans les années 70 et qui a changé complètement la société. C'est plus compliqué en France, mais voilà, le texte de Leslie Kaplan appelle à ça.
Il y eut des femmes de ménage, il y eut des ouvriers, un jeune employé de la poste, nouvellement arrivé, qui travaillait dans le 5e arrondissement à Paris. Il avait été pris d'un fou rire inextinguible à la vue de la queue incroyablement longue qui faisait des boucles et des boucles devant son guichet. Il faut dire que ce bureau, comme beaucoup d'autres, n'ouvrait plus que l'après-midi. Quand le directeur du bureau vint lui dire de se calmer, il continua à rire à gorge déployée, tout en lui plantant une énorme paire de ciseaux dans les côtes. Une jeune femme qui travaillait à la bibliothèque municipale de Saint-Denis et qui avait participé à la conception et à l'organisation d'une exposition remarquable sur le colonialisme, sujet qui lui tenait spécialement à cœur, avait-elle dit par la suite, parce qu'elle venait des Antilles. Pendant le pot d'inauguration, au milieu des petits fours et des verres de champagne, elle eut des mots avec le représentant du ministère. Il s'agissait du ministère des Outre-mer. Le ministère de la Culture ne s'était pas déplacé. Elle se servit d'une bouteille de champagne, coup du lapin. Au moins 10 ouvriers agricoles dans des régions différentes et éloignées les unes des autres firent rouler leurs tracteurs sur leurs patrons. Ce fut le cas en Beauce, en Bretagne, en Auvergne, dans le Poitou, dans le Nord, dans les Cévennes. Dans le Finistère, un ouvrier, employé depuis des années dans une ferme où avaient travaillé ses parents et ses grands-parents, se servit d'un vieux balai. Dans une ferme du Midi, une femme utilisa une poêle en fonte. L'omelette qu'elle venait de faire s'étalait encore dedans. Un gérant de laiterie fut noyé dans le lait en Auvergne, un autre dans la crème en Bretagne. Un peu partout, des camionneurs qui venaient chercher leurs feuilles de route assommèrent leur chef dans son bureau. Certains, peu nombreux, mirent le feu à leur camion.
Nous venons d'entendre donc le texte de Leslie Kaplan, Désordre, lu par Clotilde M. Merci Martin Vinclair de nous permettre de revenir à cette œuvre de Leslie Kaplan. Merci de nous mettre dans la tête que les propositions de renversement d'un ordre médical un peu sclérosé aujourd'hui sont possibles. Vous le savez, en France, on est en train de vivre ce qu'on appelle le Ségur de la santé. Vous le savez, mais j'imagine que c'est la même chose chez vous au Canada. Il y a eu une héroïsation des personnels soignants. Il y a eu une grande admiration qui perdure, je crois, encore aujourd'hui, même si on se met plus, hélas, à 20 heures pour applaudir les soignants à notre balcon, et c'est bien dommage. Il y a eu des forces de proposition venues du personnel médical et du personnel plus particulièrement hospitalier. Comment avez-vous observé l'attitude des tutelles politiques françaises vis-à-vis du fonctionnement médical français ?
Oh mon Dieu ! Je pense qu'il y a un problème général de la part des dirigeants français, mais c'est pas seulement ces dirigeants-ci, hein, c'est les dirigeants depuis très très longtemps. C'est que, et je vais caricaturer, mais dans mon esprit, depuis que De Gaulle a dit « les Français sont des veaux », tous les hommes politiques qui ont le pouvoir pensent pareil. C'est-à-dire qu'il y a un mépris, et c'est un mépris culturel, hein, on est encore dans une pensée de l'ancien régime, hein, Louis XIV est toujours là, c'est un mépris culturel pour le peuple, pour le public, pour les gens qui ne sont pas au pouvoir, justement. Dans le domaine de la santé, c'est encore plus net. C'est-à-dire que les professionnels de santé qui sont au contact direct des gens qui ont besoin de soins sont quand même bien placés pour dire de quoi on a besoin. Le public lui-même, qui est l'ensemble des gens qui devraient recevoir des soins, devraient être consultés sur leurs besoins. Par exemple, les besoins de santé ne sont pas les mêmes dans toutes les régions de France. Il y a des problèmes de santé spécifiques aux diverses régions, que ce soit à cause de la pollution, que ce soit à cause des conditions sociales, que ce soit à cause du fait qu'il y a plus d'alcoolisme ici, plus de tabagisme là, enfin bon, peu importe. Il y a énormément de conditions différentes. Mais on a l'impression qu'en France, il faut absolument gérer la santé comme si tout le monde était pareil, partout, et donc on prend des décisions qui sont des décisions pyramidales, hein, c'est décidé en haut, et puis tout le monde doit s'y plier. C'est insensé. Dans un pays, par exemple, comme le Canada, qui est un pays fédéral, au Canada, les décisions de santé sont de compétences provinciales, c'est-à-dire chacune des 10 provinces décide des problèmes de santé et de la façon de mener sa santé localement. Et c'est pas le cas en France, alors que ça devrait être de compétences régionales, ça devrait pas être à Paris de décider de ce que sont les problèmes de santé à résoudre en Aquitaine ou dans le Nord. Le problème, c'est qu'il y a toujours de la part du gouvernement actuel comme des gouvernements précédents cette pensée qui est que finalement les premières personnes intéressées, c'est-à-dire les personnes soignées, les personnes qui les soignent, n'ont rien à dire et ne connaissent rien à ce que devrait être la politique de santé. Mais la politique de santé, ça devrait être fait par les premiers intéressés, pas par des gens qui sont au ministère de la Santé en France et qui n'y connaissent rien. Ne serait-ce que parce que pour des raisons sociales, socio-économiques, un énarque ne connaît rien à la vie d'un ouvrier ou d'une ouvrière dans une banlieue de Lyon. Voilà. Donc, moi, je suis très en colère parce que on n'arrête pas de faire des réformes et des ségures de la santé en France. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, un ségure de la santé. J'aimerais mieux qu'il y ait des états généraux de la santé à nouveau comme il y en a eu il y a 15 ans et puis qu'on en tire des conclusions qui sont basées sur ce que les gens disent. Mais c'est toujours décidé de façon verticale, et ça c'est très très problématique, parce que ça peut pas changer si c'est décidé de façon verticale.
Alors, la vision de l'autre dans son corps souffrant est très différente au Canada. La vision aussi de porter secours, de porter soin, diffère complètement de celle qui est pratiquée en France. On parle beaucoup, et la philosophie s'en est emparée ces derniers temps, on parle beaucoup d'une sorte de renaissance et d'un désir presque impératif pour le monde de la santé d'établir le care, le prendre soin. Je crois que le care, il existe depuis longtemps au Canada, dans la culture profonde. Est-ce que vous pensez, vous, Martin Winkler, qui êtes un apôtre du care dans votre démarche à la fois de thérapeute, mais aussi d'écrivain, parce que vous mettez en exergue des personnes que nous aimons, nous, en vous lisant, vous, notamment, justement, dans Le cœur des femmes, mais dans vos autres livres aussi, les personnes que vous aimez et que vous nous portez en lumière, ce sont les soignantes. Est-ce que vous pensez que ça passe aussi par le care?
Le care, c'est une attitude de soin qui est fondée sur l'idéal féministe. On part du principe que toute personne mérite le même respect, toutes les personnes méritent le même respect, à commencer par les femmes méritent le même respect que les hommes. Moi, personnellement, je pense que les femmes méritent encore plus de respect que les hommes sur le plan de la santé. Mais en tout cas, le care, ça consiste à centrer justement son soin, son activité de soin, sur la perception de la personne soignée de son propre confort. C'est-à-dire que, c'est la personne soignée qui dit « oui, ça va, je me sens mieux » ou « non, ça va pas, je me sens plus mal » ou « je me sens toujours aussi mal qu'avant ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est centré sur la perception de la personne et non pas sur les gestes qu'on fait et la théorie des gestes. Pendant longtemps, on a dit, si on fait tel protocole de traitement, les gens doivent aller mieux. Parce que soigner, c'est pas une science exacte. C'est pas un calcul, c'est pas comme la physique. Et donc, on est obligé de tenir compte de ce que la personne dit. Je prends l'exemple de la douleur. J'ai coécrit avec un de mes amis qui est médecin de famille aussi, Alain Gagnon, et qui est spécialiste de la douleur. On a écrit un livre qui s'appelle « Tu comprendras ta douleur ». Pour d'abord savoir ce que c'est que la douleur, il faut d'abord savoir ce que c'est que la douleur, et c'est compliqué. Et beaucoup, beaucoup de professionnels de santé ne le savent pas, le public non plus. Mais même les professionnels de santé ne le savent pas. Et ensuite, quand on arrive à comprendre ce que c'est que la douleur, on voit qu'il y a de multiples manières d'atténuer la douleur qui ne fonctionnent pas toutes autant chez toutes les personnes. Il faut donc bien tenir compte de ce que la personne concernée nous dit, parce qu'autrement, on ne peut pas la soulager. On peut lui donner tous les antalgiques qu'on veut, si on n'a pas compris ce qu'elle dit de sa douleur, on ne peut pas la soulager. Alors, le care, c'est ça, c'est tenir compte de l'autre et de ce que l'autre dit et ressent, et toujours, encore une fois, croire la personne qu'on soigne et qu'on écoute. Et je reviens à la question des femmes. Je pense, je voudrais expliciter ce que je disais
tout à l'heure. Qui ont beaucoup souffert pendant le confinement en France pour celles qui étaient enceintes et qui voulaient faire un IVG.
Oui, enfin, qui ont beaucoup souffert quand elles étaient enceintes, qui ont beaucoup souffert quand elles avaient des rapports sexuels non protégés, qui ont beaucoup souffert
oui,
quand elles
plus,
étaient avec un conjoint violent. Qui ont été en première ligne. Dans le livre que je vais publier à la rentrée, je publie donc deux livres, un livre qui s'appelle « Atelier d'écriture » et un autre qui s'appelle « C'est mon corps », les questions que les femmes se posent sur leur santé. Dans « C'est mon corps », j'introduis quelque chose qui n'est pas une notion nouvelle, mais qui, à mon avis, n'a jamais été énoncée comme ça en France. C'est la question c'est la notion de charge physiologique. Vous avez entendu parler de la charge mentale, qui a été particulièrement importante pour les femmes pendant le confinement. La charge mentale, c'est s'occuper de tout le monde, et prévoir tout le monde, et planifier tout pour tout le monde, à l'intérieur de son lieu d'environnement, c'est-à-dire le compagnon, les enfants, les parents, vous les nommez. Mais la charge physiologique, c'est quelque chose à quoi on ne pense jamais, parce qu'on se dit « ah bah c'est naturel ». Oui, mais d'accord, c'est naturel, mais c'est une charge. C'est quoi la charge physiologique ? Dans la vie d'un homme, il y a un événement, il y a un bouleversement physiologique majeur, c'est la puberté. Il n'y en a pas d'autre. Dans la vie d'une femme, les événements physiologiques majeurs qui bouleversent et qui rythment la vie des femmes, il y en a beaucoup. Il y a la puberté, il y a la survenue des règles et le cycle, il y a les troubles du cycle et des règles. Il y a le fait d'avoir peur d'être enceinte ou de vouloir être enceinte et de ne pas y arriver. Il y a les grossesses, il y a l'allaitement, il y a le syndrome post-menstruel, il y a les dépressions du postpartum, etc. etc., etc., etc.
C'est-à-dire que vous oubliez la ménopause.
Et en plus, on finit par la ménopause.
Parce que ça dure longtemps, la vie d'une femme, hein, avec les cycles.
Voilà. Exactement, ça vit longtemps.
Physiologique, la charge physiologique.
La charge physiologique. Et donc, tous ces événements physiologiques sont une charge que les hommes ne connaîtront jamais. Sauf les hommes transgenres, c'est-à-dire les hommes qui sont nés dans un corps de femme et qui ont décidé de devenir un homme et qui peuvent continuer à vivre un certain nombre de ces événements.
Mais et qui le font très bien. Je pense par exemple à Paul Preciado qui analyse justement ce phénomène-là.
Tout à fait. Donc, quand on n'est pas né dans le corps d'une femme, dans un corps féminin, on ne sait pas ce que c'est que cette charge physiologique. Et cette charge physiologique, elle pèse de tout son poids pendant toute la vie. Pensez à la précarité menstruelle des femmes qui n'ont pas de moyens pour s'acheter des protections périodiques. Pensez aux femmes qui ont, voilà, encore une fois, qui ont des syndromes prémenstruels intenses, etc., etc. Toutes ces choses-là qui sont des poids, qui sont des événements permanents dans la vie d'une femme, les hommes ne les connaissent pas. Du coup, moi je pense que en médecine, quand on étudie le corps humain, on devrait d'abord et avant tout étudier la physiologie féminine. Parce que c'est celle-là qui est la plus sophistiquée, c'est celle-là qui est la plus complexe, c'est celle-là qui est la source du plus grand nombre de souffrances quotidiennes pour le plus grand nombre de gens, et que, au départ, toute personne qui apprend à soigner devrait apprendre à soigner des femmes. Parce que soigner un homme à côté, c'est pas compliqué.
Alors Martin Vinclair, vous semblez être une femme, d'une certaine façon, parce que vous comprenez si bien ce qui se passe à l'intérieur de la charge mentale et de la charge physiologique d'une femme. Vous nous le faites tellement partager depuis pas mal d'années, et notamment dans ces deux livres, il y a eu La maladie de Saxe, mais il y a eu Le cœur des femmes, et puis plus récemment L'école des soignantes. C'est vrai que moi j'ai pu voir le livre C'est mon corps qui sortira en septembre, et qui en dehors du descriptif de ce qui nous fait comprendre de la physiologie féminine est assorti aussi d'une sorte de cartographie corporelle et psychique de ce qui se passe pour nous les femmes. Mais vous allez encore plus loin, parce que dans L'école des soignantes, paru en 2019, c'est-à-dire il y a très peu de temps, vous imaginez un monde qui n'est pas très loin, parce que je crois que ça doit être 2022 ou 2023, autant dire que c'est maintenant, où finalement, bah, toutes les personnes qui travailleraient dans l'hôpital de vos voeux seraient des femmes. En tout cas, tout le monde s'appellerait elles. Voilà. Uniquement des soignantes. C'est-à-dire que les garçons seraient des soignantes, on les appellerait elles. Pourquoi ?
Oui, parce que...
D'abord, bon. Êtes-vous une femme, Martin Vinclair ?
Non, je ne suis pas une femme, je suis né dans un corps d'homme, mais je ne crois pas que je puisse dire que je suis une femme. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme que je ne suis pas solidaire. Je passe pour blanc. En fait, je suis judéo-arabe, donc je ne suis pas vraiment blanc. Mais je passe pour blanc, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas solidaire des non-blancs, etc. Donc, non, moi je suis égalitaire. Donc, je considère que toutes les personnes ont le droit au même respect. Si vous voulez respecter les gens, il faut savoir ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans un service où on s'occupait essentiellement des femmes. Ben, j'ai écouté. Et puis, une fois qu'on écoute et qu'on croit, on sait. C'est quand on croit pas qu'on ne sait pas. Alors, dans l'école des soignantes, j'ai métaphorisé ça parce que le français est genré, la langue française est genrée. Hein. Et le problème, c'est que si vous dites les soignants, c'est censé englober les femmes. Mais c'est une aberration, parce que l'immense majorité des personnes qui soignent sont des femmes. Donc on ne peut pas dire les soignants. Alors je suis parti de cette idée simple, que tout le monde allait être, toutes les personnes qui soignent sont des soignantes. Ce qui englobe aussi les hommes. D'ailleurs, mon narrateur est un homme. mais il se considère comme une soignante. Alors, je ne suis pas une femme, mais je me considère comme une soignante. Et je pense que l'intérêt, enfin, ce que j'ai voulu essayer de verbaliser dans ce livre, c'est que si tout le monde est une soignante dans l'hôpital, hommes et femmes, alors tout le monde est à égalité. Il n'y a plus de hiérarchie verbale, au moins, puisque tout le monde est une soignante. À partir du moment où on prend le terme qui, effectivement, représente la majorité des personnes qui soignent, et si un homme a envie de soigner, et si ça ne le gêne pas qu'on dise que c'est une soignante, bah, il fait partie de la communauté. Et donc, voilà, tout est féminisé. C'est aussi une manière de dire, pour apprendre à penser autrement, il faut apprendre aussi à parler autrement. Hein. Le langage est l'expression de notre pensée, mais le langage aussi influe sur notre pensée. Si, prenez l'écriture inclusive qui agace beaucoup de gens. Si maintenant j'écris de façon inclusive dans tous mes livres, c'est parce que précisément ça me permet de pointer que non seulement je pense que des femmes me lisent, mais je veux que ça se voit. Et si je veux que ça se voit, forcément il y a des gens qui n'y pensent pas qui vont le voir. Donc je vais modifier leur manière de percevoir les choses par la façon dont j'écris. Si ces personnes-là veulent me lire, elles vont adhérer à cette manière de penser, elles vont voir les choses autrement. Si elles veulent pas me lire, c'est leur droit, parce que justement, on n'est jamais obligé de lire un livre. Mais je pense que c'est très important de changer son discours et de changer les mots qu'on utilise, précisément pour montrer qu'on pense autrement. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans l'école des soignantes.
Non, je voulais vous citer à la fin de cette émission, Martin Vinclair, parce que j'ai l'impression que vous faites des propositions pour l'avenir aussi à l'intérieur de ce livre, des propositions qui rejoignent beaucoup des attentes de nous Français quant à une transformation en profondeur de l'hôpital public et à sa préservation. Vous dites, le soin est un travail, non un passe-temps. À l'école des soignantes, toute apprenante et par conséquent rémunérée dès son premier jour de formation, les filières traditionnelles ont été regroupées en un cursus unique et leur déroulement harmonisé grâce à la suppression des cours magistraux et aux apprentissages en groupe collégial et par mentorat. Donc, en fait, vous êtes un réformateur de l'hôpital et vous nous proposez une nouvelle manière de vivre le soin dans l'avenir, sans être pour autant totalement utopiste, même si vous êtes écrivain et médecin, vos propositions ne sont pas de la pure fiction, non ?
Non, elles ne sont pas de la pure fiction parce qu'il y a des pays dans lesquels ça se fait. Je vous donne un exemple qui a lieu en ce moment au Québec. Comme on manque cruellement d'aides-soignants et d'aides-soignantes dans ce qu'on appelle les CHSLD, c'est-à-dire l'équivalent des EHPAD, le gouvernement du Québec a décidé, et c'est le gouvernement du Québec, pas le gouvernement du Canada, c'est spécifique au Québec puisque la santé est de compétence provinciale. Le gouvernement du Québec a décidé de faire un appel pour embaucher 10 000 personnes pour devenir professionnels de santé, c'est-à-dire devenir ce qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires, c'est-à-dire les aides-soignantes et les aides-soignants. Ils sont payés, ils vont être payés dès qu'ils vont commencer leur formation. Et évidemment, en même temps, le gouvernement a remonté le salaire mensuel des préposés aux bénéficiaires, c'est-à-dire que tout le monde va être payé de la même manière, il n'y a pas seulement les nouveaux qui vont être payés très cher, les autres aussi. Et c'est en train de se faire, c'est-à-dire que former de façon accélérée, on sait le faire, et on forme les gens de façon accélérée sur le terrain. Former de façon collégiale, on sait le faire. Comment dirais-je, partager le savoir, on sait le faire. Faire du travail de professionnel de santé un apprentissage permanent. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai appris pendant toute ma carrière de professionnel de santé et je continue à apprendre. C'est pas un métier qu'on a appris une fois pour toutes. C'est un métier dans lequel on apprend tout le temps. Tout ça, c'est possible. Donc, ce que je propose dans l'école des soignantes, c'est quelque chose qui est déjà en œuvre, mais de façon fragmentée, à droite et à gauche. Ça pourrait très bien être mis en œuvre en France.
Ben merci beaucoup Martin Vinclair, merci pour le bonheur que vous nous donnez à l'intérieur de l'écriture de vos livres et merci aussi pour les forces de proposition que vous avez à l'intérieur de certains de vos autres livres. Je rappelle que l'École des soignantes a été publiée en 2019 chez POL, tous les autres livres de Martin, aussi chez POL, et qu'à la rentrée, vous avez deux livres, « C'est mon corps » et « Les ateliers d'écriture », deux livres tout à fait passionnants. Merci infiniment de nous avoir parlé du Québec. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de L'Heure Bleue, c'est-à-dire à Maëlan Loaec, Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, Lilian Allôme pour sa réalisation. Et on va se quitter comme chaque soir en musique. Ça sera avec Salassou. Et après Salassou, eh bien, vous retrouverez évidemment le journal de la rédaction avec Alexandra. Et puis après, l'ami Mishka.